des abolitions. En fait, on observe que chaque décret d'émancipation, que ce soit en France, anglais, espagnol, danois, néerlandais, a été précédé d'un soulèvement d'esclaves plus ou moins long qui précipita la prise de décision. Par exemple, en 1794, c'est la date de la première abolition en France. Et en 1791, trois ans auparavant, il y a eu la révolte de Saint-Domingue qui est devenue Haïti. 1833, abolition britannique, une révolte de Jamaïque deux ans auparavant. 1848, abolition définitive en France, révolte en Martinique et en Guadeloupe au début de la même année. Donc à un moment donné, dans les débats autour de l'esclavage, l'idée que l'abolition allait se produire un jour ou l'autre était rentrée dans les esprits. C'est-à-dire que la bataille des idées était gagnée. Tout le monde était d'accord, ça n'allait pas perdurer éternellement. La question était quand. Et donc, voilà ce que disait en 1840 un capitaine qui était chargé de faire une enquête justement sur l'abolition qui venait de se produire dans les colonies britanniques pour voir comment ça se passait, pour en faire des rapports pour l'administration française, de voir quel salaire étaient payés les esclaves, est-ce qu'ils continuaient de travailler, de quelle manière la vie s'organisait. Il disait « La cessation de l'esclavage est de notre siècle. C'est un acte d'humanité et de justice qu'il faut accomplir. Pour ma part, je me suis dans plus d'un lieu prononcé en sa faveur, mais il convient de ne pas se hâter. » Et puis, en référence aux révoltes d'esclaves, précisait toutefois qu'il ne faudrait pas attendre une transformation sociale qui aurait peut-être pour point de départ la révolte et son cortège obligé, le meurtre, l'incendie et le pillage. En gros, on attend tant qu'on peut, sauf jusqu'au moment où ils vont se révolter tellement qu'on ne pourra plus tenir. Alors, les révoltes, j'ai été surpris par leur nombre et par le nombre d'esclaves qui prennent part, la quantité de soldats qui devaient être mobilisés pour mater. C'est la dimension d'une guerre quand on met tout ça bout à bout. On a une très très vague idée d'une de rébellion qui se produit, parce que déjà, toutes celles qui ont été fomentées mais qui n'ont pas pu se produire, on ne les connaît pas. Il y a toutes celles qui sont produites mais qui ont été tues et dont on n'a pas de trace parce qu'il y avait une très forte volonté de cacher ce qui se passait d'une île sur une autre pour pas que la contagion se répande. C'était une obsession des administrateurs coloniaux, y compris par le journal officiel qui venait de Paris était censuré quand il y avait des débats sur l'esclavage pour que ce ne soit pas lu dans les colonies. Alors bien évidemment quand il y a des révoltes d'esclaves dans une île, on faisait tout pour que ça ne se sache pas dans l'île d'à côté. Et systématiquement, quand il y avait quelque part, il y avait des révoltes qui se déclenchaient peu de temps après à côté. Dans le livre en question, il y a une longue liste des principales révoltes d'esclaves qui, avec des petits caractères, occupent 4 pages. Et on en voit plusieurs par année à chaque fois dans plein d'endroits. Ce sont vraiment seulement les plus grosses. Donc, ce qu'on n'a pas tellement conscience, c'est qu'en fait, les colons eux-mêmes vivaient dans une situation d'insécurité permanente, des révoltes d'esclaves. Il y avait une tension sociale continue pendant toutes ces années. De révolte qui était très, très violente. Quoi. Dès le début, oui. Dès le début, oui. Y compris dans les autres formes d'esclavage qu'il y avait avant. Dès le début. Dès la première année. En Jamaïque, par exemple, il y a une révolte en 1737 et le gouverneur disait dans un rapport que les esclaves étaient possédés par un dangereux esprit de liberté. À Antigua, le compte-rendu d'un procès d'une insurrection qui avait lieu en 1736 disait que le désir de liberté était la première cause de l'insurrection. Donc on parlait un peu de ce désir de liberté comme presque une maladie qui se propageait, un virus dangereux, quoi. C'était réprimé de manière très très violente, justement pour que ce virus se propage pas par la terreur. Voilà un exemple de la répression sur en Guadeloupe. Le général de Poissy mobilisait 500 hommes pour donner la chasse aux esclaves qui fuyaient. Les prisonniers furent écartelés, leurs membres exposés sur des pieux afin de donner de la terreur aux autres nègres et de les empêcher de se rendre marrons. Se rendre marrons, c'était s'échapper et se révolter. Voilà, un autre exemple, les deux rois prétendus furent écartelés, les rois qui devaient donner révolte. Quelques-uns furent rompus tous vifs, d'autres pendus, et pour les jeunes, on se contenta de leur couper les oreilles et de bien les fouetter. Alors, ces révoltes étaient d'autant plus terrifiantes pour les colons que dans beaucoup des îles, les esclaves étaient majoritaires en population, c'est-à-dire que 75% dans certaines îles des personnes étaient des esclaves, et dans d'autres îles, je crois qu'à Saint-Domingue, c'était 80%, hein, pour Domingue Haïti, de la population qui était esclave. Donc on imagine le rapport de force que ça produisait en cas de révolte. Ce n'est que certains avaient les armes et pas les autres. Oui.
Tu disais tout à l'heure que les abolitionnistes n'avaient pas de contact avec les esclaves qui se révoltaient.
Oui.
Voilà. Et ensuite, tu as dit que l'abolition, en fait, arrivait souvent après une grande révolte
esclave. Oui.
Donc, c'est quoi le lien
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de contact direct, ils ne se parlaient pas, ils ne se voyaient pas, je n'ai pas de correspondance, mais que l'information de ce qui se passait dans les colonies, les révoltes remontaient en métropole, et ce qui se passait dans les débats parlementaires, les actions des abolitionnistes, les prises de position de Condorcet, Lamartine, etc., redescendaient dans les colonies par les journaux, par le dire, enfin les deux, et les esclaves finissaient par l'apprendre. Alors il y avait j'ai un transparent, je ne sais plus où il est dans le métro, mais il y a un transparent qui explique qu'il y avait des consignes données par les administrateurs coloniaux aux planteurs de ne pas lire les journaux devant les esclaves, notamment les esclaves domestiques, parce qu'ils entendaient les nouvelles de la métropole, enfin quand ça parlait des discussions sur l'abolition. Je vais parler maintenant de l'abolition en France. Donc la première abolition, donc un des facteurs déclencheurs qui a accéléré les choses, c'est donc la révolte de Saint-Domingue, qui est devenue Haïti après, en 1791. Cette révolte, c'est une histoire très dense, complexe, très riche, sur laquelle je vais vraiment passer très très rapidement, mais elle a abouti à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, c'est-à-dire que les Français qui tenaient encore un temps soit peu vaguement Saint-Domingue sur les bords ont aboli l'esclavage, enfin le gouverneur local, par peur que les Anglais et les Espagnols qui tournaient autour de l'île, qui commençaient à s'y installer, prennent le contrôle en s'alliant avec les esclaves révoltés. J'ai entendu parler de Toussaint d'Ouverture, par exemple, qui était un de leurs chefs. Donc, abolition de l'esclavage à Saint-Domingue et la Convention révolutionnaire à Paris, donc là, évidemment, on est après 1789, abolit l'esclavage dans les possessions françaises. À la suite de ça, je vais en dire deux mots de plus juste après, mais il faut savoir que, donc, à peine 10 ans après, Bonaparte rétablit l'esclavage, tente de reprendre par la force le contrôle de Saint-Domingue, échoue après des guerres terriblement sanglantes qui ont fait énormément de morts, finit par abandonner Saint-Domingue, hein, de battre en retraite. Et, donc Saint-Domingue devient Haïti, hein, déclare son indépendance le 1er janvier de 1804. Donc c'est la seule révolte d'esclaves qui aboutit à la fois à l'abolition de l'esclavage sur le territoire et à l'indépendance de la colonie. Donc c'est resté après un modèle qui a fait peur, évidemment, aux pays occidentaux, de se dire si on n'abolit pas, on va avoir d'autres Saint-Domingue ailleurs. Alors, dans le contexte révolutionnaire, l'abolition de l'esclavage était très peu présente. Hein, c'est-à-dire que il y a eu quelques personnes, mais qui étaient rares. Donc, par exemple, là, une femme qui est Olympe de Gouges, qui est connue comme une des premières féministes françaises, qui avait fait en 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a fait des pièces de théâtre au sujet de l'esclavage et qui avait qui avait écrit que qui dénonçait le retard des révolutionnaires dans la dénonciation de l'esclavage. Elle disait en 1790 « On a vu tomber en France depuis quelques mois le voile de l'erreur, de l'imposture, de l'injustice et enfin les murs de la Bastille. Mais on n'a pas vu encore tomber le despotisme que j'attaque. Je me vois donc réduite à essayer de l'abattre. » Elle était déguillotinée après parce qu'elle disait que Louis XVI était coupable en tant que souverain, mais pas en tant qu'individu de ce qu'il avait fait.
Elle a été
guillotinée. Oui. Alors, il y a eu à l'époque la rédaction des cahiers de doléances, hein, l'approche des états généraux, je crois que c'est 1789, hein, avant la prise de la Bastille, si je ne me trompe pas, qui fait apparaître que sur 60 000 cahiers de doléances, qui étaient donc écrits dans toutes les communes de France, sur les demandes qu'on faisait, hein, il y en a eu 4 seulement qui demandaient à l'abolition de l'esclavage. Il y a celui-ci, qui est, je crois, un peu célèbre, c'est les habitants de Champagnac, qui est une petite commune de Franche-Comté, qui ont écrit... dans l'article 29 de leur cahier, les habitants et communautés de Champagnac ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur en se représentant leurs semblables unis encore à eux par le double lien de la religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent avec raison que les générations futures, plus éclairées et plus philosophes, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages. Alors évidemment, les mouvements révolutionnaires en France ont accéléré, incité les rébellions dans les colonies, mais même si je rappelle que ça ne s'est pas déclenché à ce moment-là. Donc à Saint-Domingue, où il y avait environ 500 000 esclaves, donc 85 de la population totale, c'est commencé la révolte. Par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est en 1792 que les hommes de couleur libre ont eu le droit, enfin politique en tout cas, peut-être pas civil complet, mais... on ne parlait toujours pas à ce moment-là d'abolition, hein, dans les conventions de l'Assemblée de l'époque. Cela dit, quand donc Merlet a calculé le nombre de citoyens pour la future Assemblée, il avait imaginé potentiellement peut-être qu'il faudrait compter des esclaves un jour. Dans le projet de déclaration des droits de l'homme, Robespierre, le 24 avril, interdisait explicitement l'esclavage, ça a dû donc être retiré par la suite. Le 4 février 1794, à la tribune de l'Assemblée, je ne sais plus, dans l'époque, la Convention, viennent s'exprimer des émissaires envoyés par le gouverneur de Saint-Domingue qui viennent expliquer pourquoi le gouverneur a pris la décision d'abolir l'esclavage sur le territoire. Après un long périple où les planteurs ont essayé de les empêcher, ils ont dû passer par les États-Unis pour arriver jusqu'à Paris. Et ils viennent s'exprimer donc à la tribune et ils demandent aux parlementaires d'approuver la décision qui avait été prise à Saint-Domingue. Et par acclamation, l'Assemblée déclare l'esclavage aboli sur tout le territoire de la République, dont on dit « Aujourd'hui, nous proclamons la face de l'univers et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret. » Cela dit, c'est un peu des circonstances exceptionnelles qui ont permis cette abolition, puisque un député d'Eure-et-Loir, là, de la Croix, disait une plus longue discussion sur ce thème-là déshonorerait la Convention. Je demande qu'à l'instant même, le décret soit rendu. Donc, si on commençait à discuter un petit peu trop de cette mesure, sachant qu'il y avait peu de personnes présentes ce jour-là, on risquait finalement de ne pas la voter. Voilà. Mais quelques années après, déjà, enfin en 1794, l'entourage de Bonaparte était défavorable à l'abolition. Bon, il y a différents aspects là, de lobbying que je passe, mais finalement, Bonaparte, après diverses tergiversations, Monsieur de Saloué avec tout ça à l'ouverture, a décidé de reprendre le contrôle de Saint-Domingue, qui commençait à devenir trop indépendant, et envoie une expédition militaire pour restituer l'autorité sur la Conisse, qui a échoué donc finalement. Hein. Mais dans la même foulée, le 20 mai 1802 édicte donc le décret du rétablissement de l'esclavage, qui s'appelait en fait décret de maintenir l'esclavage pour des raisons un peu subtiles. Voilà. Et entre donc cette période de rétablissement de l'esclavage jusqu'aux années 1820-1830, il y a eu un creux complet, il n'y avait plus du tout de mouvement en France, même pas un courant, enfin plus rien, plus d'expression, à la fois parce que, particulièrement parce que sous Napoléon, il y avait une censure sur ce sujet-là, et que donc les abolitionnistes de l'époque se sont tués, et donc l'abbé Grégoire est le seul qui a continué de parler pendant toute cette période, donc à faire un lien entre le premier mouvement et le deuxième. Il disait, j'ai préféré suivre une route où l'on n'est jamais coudoyé, je suppose que c'est... Pardon ?
Ouais,
d'accord. Ah oui, bien sûr. Mais où l'on conserve le droit de s'estimer et la certitude d'être estimé par les hommes de bien, car la race n'en est pas entièrement éteinte. Voilà, et l'abbé Grégoire disait qu'il était resté seul sur la brèche lorsque la peur fermait la bouche à de prétendus philanthropes qui, couvrant leur lâcheté du nom de prudence, sont rentrés dans l'arène avec la jactance de la bravoure quand le danger n'existait plus. C'est-à-dire dans les années 20. Voilà, donc par rapport à une question tout à l'heure là, sur comment est-ce que les esclaves savaient ce qui se passait. Donc, le gouverneur Martinique en 1822 notait l'imprudence de certains planteurs qui, à la lecture des journaux les informant des événements, donc il arrive aussi que les habitants parlent trop imprudemment devant les nègres et les négresses qui les servent, des affaires politiques et des discours prononcés dans les chambres sur l'abolition de la traite et le sort des esclaves. Ces propos se rapportent aux ateliers et ils laissent des germes de fermentation et l'espoir d'affranchissement. Voilà pour l'abolition, la première abolition française. Oui, on peut le faire. Hein.